Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Olivier qui a organisé cette colloque magnifique qui nous donne la possibilité de confronter des situations vraiment très différentes et très complexes à comprendre. Et, j'ai partagé l'intervention en deux parties différentes. La première est dédiée à les fractures constitutionnelles du régime fasciste et la deuxième aux continuités administratives du régime fasciste. Parce que je crois qu'on doit mêler pour comprendre la situation complexe du droit public dans l'entre-deux-guerres en Italie, nous devons mêler une vision sur le droit constitutionnel avec une compréhension de la différente situation administrative. Et je parte des factures constitutionnelles. L'Italie, vous le savez bien, n'a pas avant les fascismes aucune tradition républicaine sur le modèle de la Troisième République. Et le rôle du roi dans la forme du gouvernement est resté très important, quelquefois vraiment déterminant pendant toutes les périodes de l'Italie libérale à partir de l'unification politique en 1860. L'élargissement du suffrage électoral a procédé de manière extrêmement lente. Le suffrage universel arrive seulement en 1911 et le système de représentation proportionnelle, typique d'une vie politique fondée sur des partis politiques, date de 1919. Seulement 3 ans avant la prise fasciste du pouvoir. L'administration, de son côté, avec quelques sessions au niveau des municipalités, n'a jamais connu des formes de démocratisation. Néanmoins, les débuts du fascisme marquent une profonde rupture constitutionnelle. Certainement, les rois restent, les fascismes seraient une diarchie entre les rois et les duces. Comme reste en vigueur sur le plan formel, la Constitution libérale, la charte octroyée dans le règne de Piémont-Sardaigne en 1848, le statuto albertino. Mais tous les déséquilibres constitutionnels sont bouleversés, particulièrement avec les lois dites en Italie fascistissime, dont 1925 et 26. On change la forme du gouvernement, on dissout le régime parlementaire, on commence les régimes du premier ministre, l'exécutif gagne des pouvoirs significatifs de législation ordinaire, un vrai système électoral n'existe plus et devient, avec la négation du pluralisme politique et la création en 1926 d'une justice politique, le tribunal spécial pour la défense de l'État, un instrument de simple ratification plébiscitaire. Reste les sénats royaux, mais les parlements, en 1924, 15 ans avant la substitution de la Chambre des députés à Chambre des corporations, en 1939, a déjà presque complètement perdu son importance. Le Grand Conseil du fascisme, aux origines des années 20, simple organe du parti fasciste, désormais parti unique, devient organe constitutionnel. Et c'est justement sur le plan constitutionnel que se forment les totalitarismes fascistes. Ils sont de nature constitutionnelle le secteur principal d'intervention législative du régime. la forme de gouvernement, le pouvoir du premier ministre, l'organisation du pouvoir local et la discipline de la situation politique et syndicale, la presse, l'organisation du droit pénal, formidable instrument de répression pendant les régimes, avec le nouveau code pénal Rocco de 1930 et la loi de police l'année suivante. À côté des transformations institutionnelles, c'est une nouvelle liturgie politique qui se développe. Les fascistes sont l'homme nouveau qui doit répéter les gestes de l'ancien légionnaire romain. L'ennemi du chef, maintenant du parti et de l'État, offre un caractère typiquement césariste au régime fasciste. Cette complexe liturgie politique aura une fonction essentielle dans le processus de mobilisation des masses populaires et dans la substitution de tous les mécanismes de représentation politique à base démocratique. La dialectique entre organisation des partis et organisation étatique n'est pas seulement un problème théorique qui occupe les juristes du régime pendant 20 ans, mais reste un problème historiographique relevant qui a six tensions chronologiques entre fascisme mouvement avant 1926 et fascisme régime après ses conflits et ses alliances. Il n'y a pas d'embarras. L'État fasciste est défini État totalitaire par les juristes mêmes, prêts à offrir une situation juridique aux nouveautés de régime. D'ailleurs, le défi n'est pas difficile. Les transformations ont toutes été introduites par des lois formelles. De sa part, l'étatisme libéral offre des précédents compatibles. On peut donc se limiter à faire l'exégèse des nouveaux textes normatifs et souligner les continuités avec l'État libéral. On peut, au contraire, souligner les nouveautés de la révolution fasciste et décrire les rôles fondamentaux d'intégration politique joués par les partis fascistes. La doctrine constitutionnelle, donc, n'est pas unitaire pendant les fascistes. La partie principale et plus influente reste la doctrine d'origine libérale. Les juristes les plus connus, les plus fameux, restent les juristes de la tradition libérale. Une tradition souvent signée d'un évident autoritarisme. Jusqu'à la loi raciale de 1938, il n'y a pas de rupture significative dans l'organisation des facultés juridiques. On peut faire les noms de Vittorio Emanuele Orlando, di Santi Romano, di Federico Carneiro, di Guido Zanobini. Les personnels universitaires, sauf un nombre vraiment très réduit de professeurs, conservent sa place avec les débuts du régime fasciste. On ne peut pas donc discuter de l'existence d'un droit constitutionnel dans le régime fasciste en parallèle et analogie avec la déjuridification nazie et l'existence problématique d'un Staatsrecht dans les années 30 en Allemagne. Le droit constitutionnel en Italie est régulièrement enseigné dans les facultés. Seulement des juristes refuseront déjurer fidélité au régime en 1931. Au total, les professeurs qui refuseront déjurer seront 12 sur 1200. Seulement 12. Beaucoup ont émigré vers la France, vers Paris. Des 12. Les droits constitutionnels ne cessent donc pas d'être étudiés et élaborés sur le plan scientifique. On ne peut pas dire qu'en Italie on avait la fond de la théorie et la destruction de la discipline, comme on dit pour la doctrine de l'État sans objet qui caractérise la situation nazie par elle-même. Au contraire, on conserve la méthode, les styles, les principes de la tradition libérale, mais avec les modélisations imposées par les régimes, l'hommage constant aux législateurs fascistes, la législation fidèle dans les manuels d'enseignement des nouveautés législatives du régime. Cela arrive sans difficulté particulière. Il n'y a pas de place dans l'État fasciste ni pour les Führer principes, ni pour les ruptures de la légalité formelle. La décision politique dans le régime se traduit toujours en acte juridique, en loi, en règlement, en acte administratif, en sentence. Si je peux utiliser une petite référence littéraire comme point de référence, de Louis Aragon, Aragon dit « Les Führer a été tout à fait inspiré d'anéantir toutes les lois, ce qui permet de rebâtir dans des conditions vraiment allemandes, un droit qui n'a pas besoin de code. Il n'y aura jamais de code Hitler, parce que la pensée des Führer ne peut être codifiée. » Alors, la situation en Italie est tout au contraire. Le régime est occupé dans une œuvre de codification très importante qui investe les droits pénals, les droits de la procédure pénale, les droits civils, les droits commerciaux qui verront unifiés dans le nouveau code civil de 1942, les codes de procédure civile. Le fascisme est un fascisme codificateur. Alors, l'État totalitaire en Italie se fait des façons constantes des formes juridiques. Même les brutales lois raciales de 1938 seront des lois en sens formel. Elles seront exécutées par voie réglementaire, donneront lieu à tout contentieux judiciaire annoté sur le régime juridique, et les mêmes juristes qui définissent l'État fasciste comme État totalitaire, les définissent aussi et sans réserve État de droit, en continuité avec les très critiqués États libéraux. Les totalitarismes restent donc en Italie, comme a récemment démontré dans une livre importante de Melis, une machine imparfaite, encore plus des doubles stats, des doubles États qui est resté le modèle nazi, selon l'expression célèbre d'Ernst Haeckel, qui Olivier a souligné quelques minutes avant. Néanmoins, une partie significative, mais encore minoritaire de la science juridique, les juristes qui peuvent être définis juristes du régime, juristes de la tradition en continuité avec l'État libéral, les juristes du régime en rupture avec la tradition libérale, les juristes qui furent plus proches à la politique et au parti fasciste, démontrent la nécessité d'un plus significatif renouveau culturel. Les tests les plus intéressants sont les tests où les juristes de droit public développent la doctrine corporatiste du régime. Je pense particulièrement à Carlo Costamagna et à sa review, l'État. Mais nous aurons encore dans les mêmes années, et notre review, le titre est L'État et les droits. Nous avons une review corporatiste, l'État, une review selon la doctrine traditionnelle qui s'intitule L'État et les droits. E ancora Sergio Panunzio e l'École de Pis, l'étude corporative, Marco Volpicelli e Ugo Spinelli. Selon ces juristes, l'État fasciste est plus fort que l'État libéral, par la simple raison qu'il part du pluralisme social, mais contrairement à l'État libéral, il veut se démontrer capable d'unifier, d'intégrer les forces sociales dans une unité plus organique de l'État. Les premiers ministres et les gouvernements même sont là pour garantir l'harmonie entre les partis et l'État, entre les corporations et l'État, la complexité des intérêts sociaux et le pluralisme politique sont de nouveau et par voie d'autorité unifiés au cœur de l'État. Alors, le fascisme incarne un nouveau sentiment de l'État. La métaphore corporatiste est l'élément principal de la beauté, une synthèse des valeurs éthiques, une nouvelle unité morale, politique et économique qui se réalise intégralement dans l'État fasciste, comme récite le premier article de la charte du travail, manifeste juridique des principes fascistes adopté en 1927. En général, cette littérature très critique envers la résistance passive que la doctrine traditionnelle oppose aux nouveautés du régime ne démontra pas une grande capacité d'innovation théorique. Une exception importante néanmoins existe et le nom à faire est le nom de Costantino Mortati. Personnage non particulièrement rélevant ni sur le plan académique, ni sur le plan politique, pendant les périodes de l'entre-deux-guerres, et qui n'est pas à être défini un juriste du régime, Costantino Mortati est l'auteur de deux ouvrages significatifs. La première, 1933, dédiée au gouvernement, la deuxième, de 1940, dédiée à la Constitution matérielle. Il est surtout Mortati, poussé par le besoin d'expliquer les nouveautés du parti unique, à avoir enrichi le champ théorique du droit public, à avoir analysé les forces, les institutions, les concepts en commun lointains de l'oscillation libérale traditionnelle. La Constitution, non seulement la Constitution juridique, la Constitution formelle, la Constitution écrite, mais aussi la Constitution réelle, la Constitution en sens matériel, les droits en mouvement de la forme politique, et encore les forces et les partis politiques, les gouvernements, l'indirizzo politico, les pouvoirs des gouvernements de déterminer la meilleure politique nationale, les syndicats de représentation des intérêts. Tous objets inconnu par la doctrine traditionnelle de l'État libéral. Mortati est, on peut dire, les juristes éclairés, moins influencés par la rhétorique lourde du régime et qui a continué à jouer un rôle très important pendant le passage à la République avec sa participation active à l'Assemblée constituante de la fondation du droit constitutionnel républicain. Je passe aux continuités administratives très rapidement. Au facteur constitutionnel que nous avons vu ne correspond pas des semblables facteur administratif. Même la politique du régime envers la bureaucratie est caractérisée par extrême prudence. Peu nombreuses sont les épurations politiques, surtout dans l'administration centrale de l'État. Les mouvements des préfets, qui au début du régime est plus consistant, utilisent l'instrument traditionnel du transfèrement de siège, bien connu par l'État libéral. Mais en général, les fonctionnaires publics ne furent pas politisés par le régime. Nous devons attendre 1926 pour une réforme fasciste, l'organisation podestarile des communes de Provence, c'est-à-dire la sostitution des maires électives avec des fonctionnaires honoraires choisis par l'État. Mais une fois encore, la valorisation des préfets souligne les contrôles tout additionnels des gouvernements de la périphérie. Dans le même temps, on réalise des modifications de l'organisation ministérielle avec la naissance des nouveaux ministères fascistes, surtout le ministère des corporations, mais les transformations de l'ordre bureaucratique restent modestes. L'image générale est une image de continuité étroite avec l'administration libérale. C'est le style politique qui change quand même. Le rôle du Premier ministre est bien plus fort que dans le passé. La présidence du Conseil des ministres avec le nouvel organe du secrétariat particulier des duces devient le vrai centre décisionnel dans le régime typiquement césariste. La rhétorique du régime n'épargne sûrement ni l'administration ni la juridiction. Les manifestations publiques, les cérémonies solennelles, les discours inauguraux, les relations officielles suivent scrupuleusement les liturgies politiques fascistes. Ainsi, à un autre niveau, la classe des fonctionnaires démontra une adhésion générale pour la plupart spontanée au régime. Mais les langages de l'administration comme de la juridiction, les lexiques des décisions ainsi que des sentences, des actes administratifs, conservant intact les vocabulaires technico-juridiques traditionnels. La jurisprudence ordinaire et administrative ne fut pas responsable des lectures éversives de la légalité et au contraire de consolider sa propre tradition jurisprudentielle. La continuité avec le passé est confirmée par l'importance que le régime donne au Conseil d'État. Le Conseil reste en effet l'institution fondamentale de consultation juridique et amministrative et il est aussi renforcé sur le plan des compétences juridictionnelles. Même dans ce cas, il n'y a pas eu de décoration, sauf des cas vraiment particuliers, et le régime rechercha la collaboration des juristes et des magistrats. Ceci est démontré par les choix directement voulus par Mussolini lui-même d'appeler à la tête du Conseil en 1928, en ne respectant pas l'ancienneté interne, les juristes italiens des droits publics le plus notoire et réputé Santi Romani, que nous ne pouvons sûrement définir à l'époque un juriste du régime. La longue et ininterrompue présidence du Conseil d'État jusqu'en 1944 de Santi Romano confirme le rôle stratégique de la justice administrative confiée au Conseil, dit Mussolini au moment de l'inauguration de la présidence de Santi Romano, pour le gouvernement fasciste, la justice dans l'administration n'est pas une formule vide abandonné aux disputes théoriques des juristes solitaires, mais au contraire, un programme politique concret. Et ce programme est confié au Santi Romano. Et le contrôle de légitimité administrative exercé par le Conseil d'État pendant le fascisme ne connaît donc pas de rupture significative de la tradition jurisprudentielle, et au contraire, il a pu consolider et développer des décisions déjà prises pendant l'époque libérale sur le partage des compétences, sur l'accès au pouvoir, sur le plan public, sur le droit des fonctionnaires, etc. Et forte de sa propre tradition et suffisamment séparée de la progressie du parti fasciste, l'administration reste donc le secteur principal de la continuité institutionnelle avec l'État libéral. La différence avec la situation allemande est donc significative sur le plan scientifique. Le rôle des professeurs universitaires reste presque inchangé au début du régime. On ne peut faire donc pas aucun parallèle avec les substitutions massives des juristes et surtout celles du droit public qui suivent en Allemagne le Martin Reich, la prise du pouvoir des partis nazis. La collaboration entre les juristes et les institutions politiques continue sans interruption. Nous avons vu les grands travaux sur le nouveau code ou encore sur la grande législation administrative des années 30, vraiment important poursuivi du régime dans les différents champs de l'administration. Alors, la description du régime fasciste comme état de droit reste où les juristes du droit administratif, encore plus que pousser le droit constitutionnel et corporatif, une acquisition indiscutable. Il ne vit aucune contradiction entre le totalitarisme politique et la conservation des formes juridiques propres à l'état administratif du droit. Aucun juriste du fascisme ne nommera au cours et au manuel des droits administratifs les titres d'administration italienne, comme les juristes allemands ont nommé leur propre livre, Deutsche Verwaltung, administration allemande, dans la perspective de nier l'importance de la forme juridique dans l'administration. Au contraire, l'importance du juridique dans la théorie et dans la pratique du régime fasciste permettra aux juristes italiens du droit administratif de développer avec une continuité parfaite avec leur tradition disciplinaire les points clés du système dogmatique, l'acte administratif, le pouvoir discrétionnaire, l'excès de pouvoir, les procédures administratives. Je vais arriver rapidement à la conclusion. Et je pars à la dernière question. L'État fasciste que nous avons vu respecter l'architecture de l'État de droit sur le plan de l'exécution de la loi, ou moderniser l'organisation et les fonctions publiques dans les milieux sociaux et économiques, se démontrera au contraire complètement incapable de limiter l'arbitraire et l'infamie du législateur. Les lois raciales de 1938 seront dramatiquement significatives sur ce plan. Elles concerneront des secteurs entiers des institutions, sans distinction entre les militants fascistes et les opposants au régime. Le cas le plus éclatant sera celui de l'université, où 400 professeurs et chercheurs, les 7% du total du personnel officiel et non officiel de l'université, ont été remerciés soudainement. Dans ces cas, les contrôles de légitimité exercés par le Conseil d'État ne pourra être introduit à l'exception de quelques rares cas. Ça ne pouvait pas être autrement. La loi même, et non pas son exécution, a été à l'origine de la discrimination et de la persécution raciale. La loi même limite sévèrement les possibilités de tout être juridique. En ce cas, il ne reste plus donc qu'à justifier l'injustifiable, à légitimer, comme a dit Olivier, l'illégitime. Et alors, il est facile de comprendre qu'aussi en Italie, qui n'a pas connu à la défense de l'Allemagne des banquerottes morales des juristes de la République pendant le régime, on commence à rechercher immédiatement après les lois raciales des nouvelles valeurs. Une recherche secrète, au début, est limitée à peu de personnalités juridiques particulièrement sensibles. Je pense à des personnages, des juristes très différents, mais très relevants pour la formation de l'État républicain, des juristes florentins, Giorgio Lapira, romaniste, Piero Calamandrei, professeur titulaire de la procédure civile, mais aussi maître de l'école de droit constitutionnel della faculté de Florence, qui seront capables d'élaborer les valeurs et les principes qui, quelques années plus tard, en 1936, émergeront au sein de la première vraie assemblée constituante de l'histoire italienne. Merci beaucoup de votre attention. Thank you.